With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Binge audio. Préparé avec amour et fait avec amour.
Salut, c'est Thomas Rozek. Au début du mois d'avril 2023, l'ineffable Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, déclarait dans une interview au JDD que la NUPES, l'alliance des gauches dans l'opposition, était, je cite, « sur la pente de l'ultra-gauche des années 70 ». En gros, une gauche radicale et révolutionnaire qui ne rechigne pas à l'action violente, voire à l'assassinat politique, comme on en a connu durant les années de plomb. Au moment des Gilets jaunes, on nous parlait beaucoup des années 30, d'un esprit insurrectionnel, voire factieux, qui serait ressuscité. Aujourd'hui, donc, voilà qu'on nous dégaine la menace d'une redite des années 70. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit de nous, ce besoin sans cesse de crier au retour vers le passé ? Et n'y aurait-il pas, par ailleurs, quelques références, quelques idées positives à aller chercher dans ces décennies souvent présentées uniquement sur leur face sombre ? C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Pour en discuter, je me suis tourné vers quelqu'un qui s'était livré il y a quelques années à l'exercice de l'exploration du passé pour comprendre le présent. C'est Michael Fossol. Il est philosophe, professeur à l'école polytechnique. Il a signé récemment un livre consacré à la gauche et au plaisir qui s'appelle « Quartier rouge ». C'est paru aux Presses universitaires de France, là où était paru également un autre de ses ouvrages dont on va parler tout de suite. « Récidive 1938 », un livre passionnant où il explore les résonances entre notre époque et ces fameuses années 30, sans pour autant crier à leur retour. C'est plus subtil que ça, vous allez voir. À Michael Fossol, j'ai commencé par demander s'il avait la sensation que les époques se terminent réellement, si elles s'empilent et continuent de résonner en nous au lieu de se succéder.
D'abord, il faudrait distinguer peut-être l'époque et les périodes à l'intérieur d'une époque, qui est une époque qu'on peut considérer comme étant encore la modernité dans laquelle nous vivons. Je pense qu'il y a quand même des continuités. On a tendance, quand on vit à une certaine période de l'histoire, là pour le coup la nôtre, à considérer toute chose comme nouvelle, à penser que le monde ancien a été remplacé par le monde nouveau. Et évidemment, on vit aussi dans une réalité faite de virtuel, de numérique, qui tente à penser que, ou à faire croire que nous vivons les choses pour la première fois. L'histoire nous permet, ou le détour par l'histoire, nous permet de voir qu'en réalité, il y a des logiques, des manières d'envisager la politique, des manières d'envisager le corps, des manières d'envisager le réel, qui finalement ont des analogies avec le passé. Disons que l'idée que nous serions dans la disruption permanente, dans la nouveauté et l'inédit me paraît assez erroné. Évidemment, il faudrait peut-être réfléchir aussi au fait que les nouveaux médias, les chaînes d'information continue, le système du journalisme par l'alerte Breaking News, tout ça nous fait considérer qu'en une seule journée, nous avons déjà rompu trois fois avec le passé, alors qu'en réalité, il y a peut-être des constantes et qui expliquent pourquoi on peut avoir ou la nostalgie ou la terreur d'ailleurs de ce qui s'est passé autrefois.
Ce qui était très fort avec Récit, récidive, c'était que justement ce terme de récidive, c'est pas un retour en arrière, c'est une récidive dans le sens médical du terme, c'est-à-dire un retour certes de la maladie, mais sur un corps qui est différent. Donc pas forcément avec les mêmes symptômes et puis pas forcément avec la même issue. On a du mal quand même toujours à ne pas utiliser le vocabulaire du retour et comprendre que réexpérimenter un esprit du temps passé, ça ne veut pas dire revivre exactement le temps passé.
Oui, effectivement, l'image du retour ne me paraît pas très bonne, parce que quand on dit retour des années 30, finalement, ceux qui pensent qu'il n'y a rien de commun entre ce que nous vivons et les années 30 auront beau jeu de dire, bon, bah, ma foi, où est Hitler, où est Mussolini, où sont les chemises brunes dans la rue, bon, et où est Maurice Chevalier qui monte sur la scène du Casino de Paris cette année-là. Bon, évidemment, le retour est un thème qui apparaît comme une répétition pure et simple, qui n'a pas beaucoup de sens, tout simplement parce que les sociétés évoluent comme un corps évolue, ce qui ne veut pas dire, pour ça que j'ai choisi ce mot de récidive, ce qui ne veut pas dire que le même mal ou les mêmes pathologies ne peuvent pas se répéter sur un corps qui, lui, est différent. Et que, par exemple, l'extrême droite, par exemple, l'autoritarisme, peut-être qu'il ne prend plus, et assurément, il ne prend plus la figure aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, du fascisme ou du nazisme, mais ces tendances à rechercher des solutions autoritaires n'ont pas disparu dans des périodes de crise généralisées. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que l'image de la récidive est intéressante parce que elle montre qu'il y a quand même des continuités dans l'histoire, des groupes sociaux, des groupes politiques qui se maintiennent et s'opposent les uns aux autres, même si c'est à des périodes différentes et même si ceux qui vivent ces périodes ont parfois le sentiment d'être les premiers à vivre cela. Il y a quelque chose d'un peu à la fois inquiétant quand on parle des années 30, après on parlera des années 70 qui sont peut-être plus heureuses, peut-être inquiétant mais peut-être aussi rassurant parce que, enfin rassurant en tout cas, important du point de vue politique, à savoir que ce que nous vivons ressemble par certains aspects à ce qui a été vécu, parce que ça nous donne aussi peut-être une image de l'issue possible, des alternatives, de la possibilité de résister à ce qui est en train de se produire.
Il y a un aspect qui, là encore, moi m'intéresse, c'est que une des thématiques que vous explorez dans votre travail, c'est cette idée de l'inconfort, des aspects inconfortables de notre existence et de notre trajectoire collective. Mais il y a quelque chose, paradoxalement, de très confortable, justement, en se raccrochant au passé, donc que ce soit les années 30 ou les années 70, de se dire « ça s'est déjà produit et quelque part on s'en est déjà sorti, on en a déjà fait autre chose ».
Oui, parce que cette figure qui n'est pas seulement liée à l'histoire, qui est liée à toute vie, de quelqu'un d'assez expérimenté, plutôt âgé, qui regardera le malaise des adolescents avec un haussement d'épaule, en considérant qu'après tout, tout le monde était passé par là, tu n'es pas le premier à vivre cela. Bon, il y a cette espèce de rhétorique de la... effectivement, alors là on peut dire de la confiance, qui en général est tenu par ceux qui sont sortis de la crise ou sont sortis des difficultés. Alors évidemment, quand on se réfère à des années particulièrement terribles de l'histoire comme les années 30, je ne suis pas sûr que le confort soit total, parce que évidemment nous en sommes sortis, mais à quel prix ? Au prix d'une guerre mondiale, d'un génocide, d'un nombre de morts absolument considérable et même inouï par rapport à l'histoire. Donc au fond, le fait d'en être sorti ne me paraît pas être forcément la chose à retenir, parce que précisément, comme il y a des choses qui parfois tentent à revenir sous une figure alternée, différente, eh bien ça prouve que nous n'en sommes pas totalement sortis. Nous ne sommes pas sortis des crises migratoires et du refus d'accueillir des réfugiés qui avait lieu dans les années 30, qui a lieu de manière différente certes, mais néanmoins aujourd'hui. Nous ne sommes pas sortis des régimes de moins en moins démocratiques, nous ne sommes pas sortis des crises sociales dont on ne voit pas l'issue, nous ne sommes pas sortis du racisme, nous ne sommes pas sortis de toute une série d'éléments qui constituent les sociétés modernes qui, d'une certaine manière, sont aujourd'hui plus visibles encore que quand j'avais écrit ce livre il y a 4 ou 5 ans. Je tirais sur la sonnette d'alarme sans être sûr et en espérant que c'était le mauvais bouton, mais j'ai parfois le dépit de ne m'être pas totalement trompé quand je vois ce qui se produit aujourd'hui.
Alors justement, vous devancez presque ma prochaine question. Effectivement, Récidive ciblait l'année 1938 et faisait écho à l'année 2018. Aujourd'hui, on est en 2023, 5 ans après, il s'est passé énormément de choses, on va pas les détailler là, mais quel regard du coup vous portez a posteriori sur à la fois ce travail que vous avez mené, les conclusions que vous en tirez à l'époque et peut-être les conclusions que vous en tirez maintenant?
Il faut dire un mot quand même de l'année 38, parce que c'est quelque chose qui peut apparaître un peu abstrait et lointain. Surtout, moi je m'étais intéressé non pas justement aux années 30 dans la version allemande, italienne, je dirais Hitler, Mussolini, les pays fascistes. Je me suis intéressé, en lisant la presse de l'époque, à ce que devenait la France en 38, et la France en 38 est encore une démocratie, au moins formellement. Et donc au fond, j'ai été assez sidéré en découvrant un peu cette année du fait que par toute une série de points, sur toute une série d'éléments, la France, on on sort du Front populaire, il y a une rupture avec les victoires sociales de 1936. La France, déjà, alors, avant la défaite de 40, avant Vichy, commençait à s'habituer à des régimes d'exception du point de vue juridique, à des mesures de plus en plus dures du point de vue social, à une répression policière des manifestations et des grèves générales, ou de la grève générale assez spectaculaire, c'est-à-dire au fond un moment de raidissement de la société française et de ses élites. Alors j'avais en vue à cette époque-là, en 2018, ce qui se passait au niveau déjà de la crise migratoire, du refus d'accueillir les réfugiés, j'avais en vue aussi les manifestations sur la loi travail et la répression dont elles ont fait l'objet, et puis un retournement, disons, d'un gouvernement élu pour faire une politique plutôt de gauche, en tout cas relativement progressiste, qui finalement fait une politique extrêmement conservatrice et désespère Billancourt, comme on disait. Et donc, ces parallèles-là, alors vous me dites, depuis 5 ans, est-ce que j'ai changé d'avis? J'aurais aimé, hein. Je pense que la situation dans laquelle on se trouve, et dans laquelle, il faut noter, on se trouve de manière quasiment continue en termes, disons, de contestation sociale ou de bouillonnement social, hein, en passant par les gilets jaunes. Bien sûr, il y a eu cette parenthèse du confinement, mais elle n'a peut-être pas été d'ailleurs produit des effets très positifs dans l'esprit des gens. Et puis évidemment, aujourd'hui, les manifestations contre la réforme des retraites fait que la France vit, alors là, c'est peut-être nouveau d'ailleurs, 38 était pas mal parce que tout se passait en quelques mois, donc d'une certaine manière, ça permettait de saisir les choses rapidement. Alors que la France vit depuis une dizaine d'années maintenant dans une ébullition sociale permanente et avec quand même, c'est difficile de ne pas le voir aujourd'hui pour ceux qui ne voulaient pas le voir hier, à l'arrière-plan, une montée en puissance électorale de l'extrême droite tout à fait saisissante. De ce point de vue-là, je dirais que les phénomènes que j'ai repérés en 2018 en les interrogeant depuis 38 se sont tous confirmés et pour certains nombre d'entre eux aggravés.
Nous combattrons sans relâche ceux qui, à l'extrême gauche, attisent la haine, fracturent sciemment le corps social et soufflent sur les braises du mécontentement. Ils espèrent cyniquement récolter les fruits politiques du chaos.
Le vrai débat, il est là. C'est les menaces que l'extrême gauche, que l'ultra-gauche, représente, incarne aujourd'hui.
Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
On en arrive au cœur de notre sujet, à savoir cette insistance chez certains dirigeants politiques et acteurs médiatiques qui, après avoir beaucoup parlé des années 30 il y a peu, en sont désormais à invoquer les années 70 pour nous alerter sur la radicalisation de la gauche et des écologistes, faisant planer la menace d'un retour de l'action violente et justifiant par ailleurs au passage le recours à la force publique et donc les violences policières. J'ai demandé à Michael Fossel comment lui percevait ce discours ambiant.
Dans les années 70, donc au sortir de 68, il y a évidemment un phénomène qui est celui de ce qu'on appellera à tort ou à raison l'échec de 68, qui va jeter toute une série de militants d'extrême-gauche, trotskistes ou maoïstes d'ailleurs, dans une activité un peu groupusculaire. Alors, moi j'ai été frappé par le parallèle établi par le pouvoir, il faut bien le dire, lorsque, je crois, Darmanin avait parlé à propos de Sainte-Soline de l'éco-terrorisme. Alors, évidemment, introduire la question, le thème du terrorisme, ça fait un effet, évidemment, extrêmement violent, d'ailleurs pour moi inacceptable de parler de terrorisme à cet objet-là, mais premièrement parce que nous avons eu une expérience du terrorisme islamiste en 2015, mais qui n'avait justement pas cette dimension, disons, politique d'extrême-gauche, mais que ça renvoie aussi à cette période des années dites de plomb dans les années 70, dont il faut noter quand même qu'elles ont marqué l'Allemagne et l'Italie, la fraction armée rouge, les brigades rouges, mais pas la France. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu une tentation à un moment terroriste, c'est-à-dire de certains gauchistes qui, voyant que tout échouait, que leur combat en 68 n'avait pas produit de fruits, ont été tentés, on sait d'ailleurs, c'est documenté, qu'il y a eu des discussions à l'intérieur des plus radicaux, comme on dit aujourd'hui, pour savoir s'il fallait passer à la lutte dite terroriste. Bon, ils ne l'ont pas fait, et d'ailleurs on ne saurait que les en féliciter, mais évidemment, de la part du pouvoir, pouvoir employer ce terme-là pour délégitimer les luttes sociales, ça a deux aspects négatifs. D'abord, ça ne correspond pas à la vérité. La désobéissance civile et le terrorisme sont deux éléments qu'il serait quand même bon de distinguer. Et puis, ce qui est peut-être encore plus dangereux, c'est que ça peut constituer une sorte de prophétie autoréalisatrice, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'à force de criminaliser l'opposition, de criminaliser la désobéissance civile, le refus que manifestent beaucoup maintenant dans de citoyens, particulièrement chez les jeunes, de ces politiques de prédation vis-à-vis de la nature, ou de l'eau en l'occurrence, si on prend Sainte-Soline, à force au fond de banaliser ce terme de terrorisme, peut-être que cela constituerait une tentation pour certains de s'y vouer. Donc la référence aux années 70, elle est un peu ambiguë par rapport aux années 30, qui sont assez généralement vues comme négatives, parce que les années 70, c'est à la fois toute cette réalité politique de violence, hein, elles ont été violentes, alors là, pour le coup, ici aussi en France, mais à un autre niveau, c'est-à-dire il y a eu quand même un certain nombre de ministres qui sont morts, qui ont été assassinés, dans des conditions un peu suspectes, toujours pas élucidées aujourd'hui d'ailleurs. Mais les années 70, c'est aussi des années encore de c'est la fin des Trente Glorieuses, c'est un moment que l'on peut envisager comme étant à la fois dur politiquement et assez heureux, je dirais, sociétalement, si je puis dire, une sorte de libération des mœurs, tout ce qui vient après 68, le MLF, les premiers mouvements homosexuels, aussi la toute première naissance de la conscience écologique en France, hein, René Dumont, etc. Donc là, s'y référer comme à quelque chose d'un peu nostalgique, on peut le faire, l'utiliser ou renvoyer aux années 70 uniquement comme des années qui auraient été marquées par la violence politique et le terrorisme d'extrême gauche ou de l'ultra-gauche, comme on aime à dire aujourd'hui, me paraît historiquement faux et politiquement assez dangereux.
Et est-ce que justement, politiquement, la gauche, les mouvements de gauche n'auraient pas justement intérêt à embrasser cette idée alors pas forcément d'un retour, mais d'une reconnexion, en tout cas avec ce passé des années 70, et justement ce que vous décriviez, ce bouillonnement très fort, parce que certes, il y avait de la violence, certes, il y avait tout un tas de choses qui se passaient qui étaient négatives, mais il y avait une grande positivité dans le sens où il y avait une grande mobilisation, une grande politisation aussi de l'après 68, des graines qui ont commencé à germer dans ces années-là, qui nous ont amené jusqu'à 81 et la première victoire de la gauche à la présidentielle. Est-ce que justement la gauche intellectuellement n'aurait pas intérêt à aller creuser un peu cette idée-là des années 70?
Alors évidemment, on pourrait dire, comme toujours, quand on parle de référence au passé, que les choses ont beaucoup changé, que 70 était encore un modèle industriel, il y avait Billancourt, il y avait des usines, que le prolétariat, pour employer ce terme un peu vieilli, avait une unité d'expérience qu'il n'a plus, maintenant il est atomisé. Bon bref, on peut insister sur les différences. Bon, il faut noter, effectivement, là je suis d'accord avec ce que vous avez dit, qu'en 70, les années 70, on est dans un moment où le phénomène 68 n'a pas donné lieu à une révolution au sens classique du terme, c'est-à-dire au fond de prise du pouvoir ou même, et il y a eu des élections qui ont été même en 68 des élections très favorables aux gaullistes et à la droite. Donc il y a une espèce de, là on a parlé tout à l'heure des groupuscules d'extrême gauche, mais dans la gauche institutionnelle il y a toute une réflexion qui va mener au programme commun. Ça nous rappelle peut-être des éléments d'aujourd'hui, mais beaucoup plus élaborés que la NUPES ne l'est aujourd'hui, le programme commun entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Il y a un travail d'élaboration assez intellectuel, c'est vrai, d'abord chez les intellectuels puis dans les partis politiques, qui va mener au programme commun. Alors, il y a toute une série d'événements qui vont faire que ça ne va pas forcément marcher comme on l'espérait, mais néanmoins, qui ont marqué à un moment la nécessité au fond d'un changement. Parce que finalement, c'est quand même, on sortait aussi depuis 1958 au moins, sinon plus haut, de très longues décennies de pouvoir conservateur. Bon. Donc, il y a un désir de changement que les hommes politiques, les hommes à l'époque, il y avait peu de femmes, mais qui étaient en responsabilité de ces partis de gauche, et aussi les intellectuels qui les entouraient, ont épousé, ont suscité. Alors, comment s'inspirer de cela? Bon, là, il faudra évidemment réfléchir à la situation aujourd'hui, où la gauche est quand même beaucoup plus faible, hein, sociologiquement, je veux dire. À l'époque, les deux partis, PS et PC, ça faisait quand même pas loin de 50%. Il n'y avait pas d'extrême droite aussi, ce qui est quand même constitué. Enfin, il n'y avait pas d'extrême droite électorale. Quoi qu'il faut noter que le Rassemblement National est né sous la figure du Front National dans les années 70, en 72. Enfin bon, il ne pesait rien à l'époque. Donc, il y avait une sorte d'évidence politique encore, une séparation entre la droite et la gauche qui certainement avait plus de netteté qu'aujourd'hui. même si je pense qu'aujourd'hui elle revient, peut-être pas sous la figure droite-gauche, mais enfin néanmoins ceux qui sont, je dirais, plutôt satisfaits du système tel qu'il va et ceux qui pensent qu'il nous mène à la catastrophe, elle revient par la question écologique, qui de fait est née dans les années 70, mais ne s'est imposée véritablement comme un enjeu central dans la politique française, enfin mondiale d'ailleurs, que depuis une dizaine d'années avec le réchauffement climatique. Je pense que c'est toujours sous le sentiment de l'urgence, d'une certaine urgence, que se reconstituent des combats politiques un peu émancipateurs.
Il y a justement un autre élément de ces années 70, alors qui est peut-être un élément que moi ou les gens de ma génération fantasment par rapport à ces années que nous n'avons pas connues, mais qui, pour le coup, nous semble assez enviable et assez intéressant à ressusciter. Ça va parler aux philosophes du plaisir que vous êtes. C'est justement cette idée d'enthousiasme. Parce qu'on a la sensation que, certes, c'était des années compliquées et marquées par tout un tas de défis auxquels il a fallu faire face, mais c'était des années aussi d'enthousiasme politique, avec l'idée qu'un avenir désirable était possible. Est-ce que ce sentiment-là aussi, il ne serait pas intéressant de le ressusciter, non pas de le ressusciter, mais de le ressusciter au sein des courants de gauche, notamment, qui peine très fortement à déclencher l'enthousiasme qui était celui des années 70 et tout début des années 80.
C'est en 71 que le Parti Socialiste, à l'époque il était très à gauche, a choisi comme emblème le point et la rose, c'est-à-dire justement quelque chose qui a un double emblème en quelque sorte, le point pour la lutte et la rose pour le bonheur, comme disait Mitterrand. Donc effectivement il y avait, ça sort directement de 68 effectivement, il y avait une conscience assez positive du fait que l'engagement, le militantisme, la transformation de la société, au fond, s'accompagnait aussi d'une certaine joie. Il fallait à la fois transformer le monde et changer la vie, en quelque sorte. Il n'y avait pas encore une différence qui pour moi est rédhibitoire politiquement, entre le social et le sociétal, c'est-à-dire entre ce qui relève, disons, de l'économique et des inégalités sociales, et puis une gauche qu'on appelle sociétale, qui insistera beaucoup plus sur la liberté individuelle ou d'autres questions qui relèvent des mœurs. Au fond, il y avait cette conviction qui était issue de ce qu'on appelle le freudo-marxisme, qui a un peu disparu de l'horizon aujourd'hui, des auteurs comme Marcuse, qui ont pensé ensemble le marxisme, le social, le freudisme, c'est-à-dire l'idée quand même que, enfin, pour le coup, l'usage qu'ils en faisaient, en tout cas, l'idée que l'émancipation, y compris sexuelle, et le plaisir des individus constituent un élément aussi de politique, pour la bonne et simple raison que l'autoritarisme, la hiérarchie dans l'entreprise et dans l'État marquaient un interdit sur l'émancipation des individus. Donc au fond, il n'y avait pas d'opposition entre l'égalité sociale et le domaine de l'enthousiasme, de la transformation de nos vies. Alors cela, effectivement, on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui en un sens, dans toutes, non seulement les réflexions, mais aussi les pratiques liées, justement, si on dit que l'enjeu maintenant est plutôt écologique, lié à la sobriété heureuse, à des manières d'essayer de retrouver un rapport à la nature et aux autres, par conséquent, qui soit plus fondé sur la prise en compte, la douceur, le respect, que simplement, je dirais, la consommation avide. Donc, certainement, il y a des enthousiasmes, et puis finalement, l'enthousiasme en politique, à mon avis, on peut le définir en disant c'est le moment où on a plus de plaisir à plusieurs que seuls. Donc par conséquent, on le retrouve aussi dans des manifestations, le fait de se rassembler, et on a pu voir, pour ceux qui y étaient du moins, dans les manifestations récentes, qu'il y avait, du point de vue même d'une certaine jeunesse qui n'est peut-être pas immédiatement liée à la question des retraites, un plaisir aussi, ça vient après le confinement d'ailleurs, enfin après une période de confinement, à se retrouver, à faire corps, on peut dire littéralement, avec tout ce que ça implique aussi de joie et de revendications mêlées. Encore une fois, le point est la rose, mais en n'oubliant pas que la rose a des épines et que donc il y a dans le fait de revendiquer de la joie, du plaisir et de l'enthousiasme, il y a aussi un côté subversif par rapport à des institutions ou à une forme d'organisation économique de la société qui fonctionne plutôt à l'humiliation et à la souffrance qu'à la joie.
Est-ce qu'on est dans une superposition alors, plus qu'un retour ou une récidive, une superposition des époques? Est-ce qu'elle continue de nous entourer toutes et tous pendant que nous traçons vers autre chose?
Vous avez évoqué les années 30 et les années 70, mais finalement les années, en tout cas 68, n'est pas du tout sans rapport avec ce qui s'est passé dans les années 30 et 40. C'est la génération d'après, c'est ceux qui sont nés, ceux qui font 68, en tout cas du côté étudiant, sont ceux qui sont nés après la guerre ou pendant la guerre, mais qui vivent avec, c'est parce qu'il y a eu 68 en Allemagne, il y a eu 68 aussi en Italie un peu, mais surtout en Allemagne, pas seulement en France, aux États-Unis aussi. Enfin, ceux qui vivent avec, je dirais, le poids des crimes du passé, que leurs ancêtres les aient subis ou que leurs parents les aient commis d'ailleurs. Autrement dit, Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y avait une conscience du tragique, c'est-à-dire le moment où on s'engage aussi parce qu'on ne veut plus voir les horreurs de la guerre. Il y a un mouvement pacifiste qui est fort. Donc, on est dans une période où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas simplement jouir sans entrave. Hein, c'est aussi le souvenir que nous avons un peu perdu aujourd'hui, je trouve, du tragique de l'histoire et le refus surtout de son caractère inéluctable. Alors aujourd'hui, s'il y a à la fois une peur des années 30 et une nostalgie parfois de certaines formes des années 70, je ne les opposerai pas. De toute façon, une société sans mémoire, c'est ce qu'il y a de plus à craindre. Donc au moins le souvenir de ce que cela a existé, l'enthousiasme et la terreur, les deux, devraient aussi nous renseigner aujourd'hui sur ce que nous vivons, éventuellement sur ce que nous avons à faire. Et en particulier le fait que la résistance à toutes les formes d'autoritarisme, c'est une résistance qui est d'autant plus puissante qu'elle est collective, joyeuse et forte de sa sensibilité heureuse, pas seulement de son ressentiment. Le maintien, malgré tout, je pense à l'intersyndicale aujourd'hui, qui malgré tout, malgré une défaite annoncée, hélas, bon, est très difficile évidemment à assumer pour eux, maintient, même encore le 1er mai, le temps des cerises, voilà une date d'ailleurs justement qui est une date qui est censée susciter à la fois la joie et la combativité de gens qui finalement sont sortis de chez eux, se sont engagés, n'ont pas très envie de rentrer, même s'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et peut-être il faut miser aussi sur cette détermination-là, sans être certain de gagner. A priori, dans l'immédiat, ça ne sera pas le cas, mais pour miser sur des victoires futures, plutôt que de s'enfermer dans un ressentiment qui nous promet simplement le pire.
Le pire n'est pas toujours sûr, il n'est surtout pas toujours obligatoire, pourrait-on ajouter. Merci à Michael Fossel pour ses réponses. Son dernier livre paru, il s'appelle « Quartier rouge, la gauche et le plaisir » et il est disponible aux presses universitaires de France. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio réalisé par Paul Berthiaud, préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.